France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, ça devait faire bizarre si votre père, avant votre naissance, avait avalé votre mère enceinte, et si votre père avait accouché de vous. Quelle vie de famille peut-on avoir? Et quelle vie tout court? Sûr, on devait être l'enfant chéri du père glouton, la préférée si on était une fille, et même préférée à tous les garçons qui sont eux nés normalement d'un père et d'une mère bien en chair et bien présents. Même si le père, pour multiplier ses conquêtes amoureuses et sa progéniture, avait pris des formes paternelles plutôt insolites. La forme d'un cygne, d'un taureau, d'une pluie d'or, d'un aigle, d'un berger. Le père, s'il vous a fait naître tout seul sans mère, n'a pas à vous partager. Il peut vous choyer pour lui tout seul. Il peut croire qu'il se reconnaît en vous, que vous êtes à son image. Belle illusion.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Certes, comme les êtres masculins ne sont pas vraiment dotés de tous les organes qui permettent un accouchement, la naissance est difficile et même douloureuse. Il faut trouver une issue, ou plutôt l'ouvrir, là où il n'y en a pas. Un bon coup de hache, bien ciblé, dans le crâne peut faire l'affaire, mais c'est risqué. C'est bien ce qui est arrivé pour la naissance de la petite Athéna. Il ne faudrait pas dire la petite, car elle est née bien droite, debout. Elle était déjà grande, avec un casque, une lance, une armure, un bouclier. C'est dans cet équipement militaire complet qu'elle est sortie du crâne de son père, Zeus, le dieu des dieux, le chef. Un autre dieu, Héphaïstos, était allé chercher une hache pour fendre le crâne de Zeus, à sa demande, car la grossesse crânienne de Zeus arrivait à terme. Il souffrait.
Grâce à la technique d'Héphaïstos, à sa hache forgée dans le bronze, Athéna se dressa sur le haut du crâne de son père. Elle hurla dans un immense cri de guerre. Le ciel en frissonna, ainsi que la déesse Terre.
Après son coup de hache de sage-femme, peu au courant des méthodes modernes et non violentes de l'accouchement, Héphaïstos a vite pris le large, craignant que la douleur de cette mise au monde inhabituelle ne mette Zeus en colère. Ce n'était pas par gloutonnerie que Zeus avait avalé la mère d'Athéna, mais par prudence, il se méfiait. Une prédiction lui avait dit que cette femme qu'il convoitait allait engendrer un enfant plus fort que lui. Cette femme était la déesse Métis, c'est-à-dire la déesse intelligence. La Métis en grec, c'est la pensée habile, rapide, qui trouve des solutions, des issues, là où on croit que tout est bloqué. Ingénieuse, inventive, cette intelligence efficace contourne les obstacles finement. Elle ne se laisse pas piéger. Cette déesse était de très bonne famille. Elle était la fille du dieu Océan et de la déesse Thétis, avec un Y, pas comme Thétis, la mère d'Achille, avec un I. Un couple fécond et de très grand prestige, qui passait parfois pour être à l'origine de tous les êtres. Ils ont fait naître tous les fleuves et 3000 filles qui courent partout sur la terre et au fond des eaux. Il n'est pas étonnant que la déesse intelligence, Métis, soit issue de ce couple ancien, Océan et Thétis. Océan est le fleuve éternel, qui ne s'arrête jamais, qui fait le tour de toute la terre, qui embrasse tous les êtres par son flot régulier. Comme lui, intelligence, Métis, ne s'arrête pas. Elle saisit tout, elle a fait le tour de tout, elle connaît tout. Hésiode, ce poète de la fin du 8e ou du début du 7e siècle avant notre ère, dit de Métis:
elle est la plus savante parmi les dieux et les hommes mortels.
Métis est la première déesse que Zeus a voulu épouser. Il venait juste de vaincre les titans et de prendre le pouvoir sur tous les dieux comme chef suprême. Il commençait à installer son régime sur l'Olympe. On peut comprendre son choix de Métis. Il était sûr, avec une telle épouse, de maîtriser le cours des choses dans sa totalité et de venir à bout des situations les plus complexes. Oui, mais les ancêtres de Zeus, les deux grandes divinités que sont terre, Gaïa, et ciel, Uranos, lui ont prédit que s'il faisait des enfants avec elle, Métis, ses enfants le mettraient en danger. Il voudrait prendre sa place. C'est l'éternel constat que les enfants veulent toujours évincer leurs parents, les ingrats. Le père de Zeus, Cronos, avait dû affronter le même danger. Pour éviter que ses enfants, fils et filles, ne prennent sa place, il les avait tout simplement avalés, les uns après les autres. Mal lui en a pris. Le dernier-né, Zeus, a échappé à cette destination gastrique et a pu obliger son père à recracher toute sa progéniture engloutie. Zeus est plus malin que son père. Au lieu d'attendre que ses enfants naissent et de les avaler, il avale directement la mère, Métis. On ne sait pas comment il a fait pour la tromper, pour l'absorber, sans qu'elle se méfie, alors qu'elle est censée être très intelligente. Mais toujours est-il qu'il a été plus intelligent qu'elle. Il la plaça dans son ventre. Installé dans ce ventre, Métis ne refusa pas de lui donner de bons conseils. Elle continue. Métis était enceinte d'Athéna, la future déesse plus futée que les autres. Zeus fait naître cette Athéna, mais par lui-même, par la tête, avec le coup de hache donné par Héphaïstos, le dieu artisan. On dira souvent d'Athéna qu'elle n'a pas eu de mère, qu'elle n'existe que par son père, et dit-on souvent pour lui. Mais le mythe n'est pas aussi radical, aussi simpliste. La déesse Métis n'est pas annulée, supprimée. Elle continuera à être elle-même, mais dans le ventre de Zeus. Grâce à elle, Zeus recevra de bons conseils. Et on pourra dire que Zeus est par excellence le dieu intelligent. Matietas Deus. Zeus l'a visé, avec un adjectif Matieta, qui reprend le nom de Métis. Si on s'intéresse à la physiologie du corps de Zeus, on découvre une conception bien particulière, mais commune dans l'Antiquité, en Grèce et ailleurs. Un helléniste de Cambridge, Richard Onions, l'a mise en lumière dans les années 1950. Le ventre ne servait pas qu'à la digestion. Il était doté en Grèce et ailleurs d'une faculté prophétique. L'âme pouvait y séjourner et les entrailles pouvaient parfois dire l'avenir. C'est bien pour cela que les devins les consultaient chez les animaux. Quant à la tête, qui chez Zeus fonctionne comme une matrice pour la naissance d'Athéna, elle était aussi le siège de l'âme, psyché, au sens de vie. Elle était même la source masculine de la vie. Les anciens assimilaient volontiers la semence virile, blanche, et le liquide céphalo-rachidien, liquide blanc, dans lequel baignent le cerveau et la moelle épinière. Il y avait une continuité de fluide entre la tête et le sexe. La tête était censée produire la semence. Elle était féconde. L'histoire étonnante de l'avalement de Métis permet aux fonctions du corps de Zeus de fonctionner à plein régime et d'exprimer les pouvoirs exceptionnels du dieu souverain. Dans une sorte de boucle presque parfaite, Zeus a pu faire de sa tête, lieu où se produit sa semence, le lieu de la gestation puis de l'accouchement de son enfant. Une pater maternité, presque totalement masculine, mais il a fallu en passer quand même, par l'engloutissement d'une déesse féminine. Comme toujours, dans une culture, grecque ou autre, quand il y a une opposition entre deux éléments contraires ou différents, et quand un élément est déclaré supérieur à l'autre, comme le masculin opposé au féminin, le divin opposé à l'humain, l'homme libre opposé à l'esclave, l'élément supposé supérieur n'est pas seulement plus fort que l'autre, qu'il peut écraser, humilier, nier comme il veut, il est supérieur, parce qu'il s'est aussi intégré en lui l'élément déclaré plus faible. Zeus est le plus fort, car il sait quand il le faut et quand il veut aussi être femme. Il sait accoucher dans la douleur. Il accouche d'une femme, Athéna, qui arrive au monde armée comme un homme.
Quel bénéfice trouvent les Grecs à compter l'origine sans passer par les femmes ? Nicole Leroux.
Il y a chez les hommes grecs une immense envie de la façon que les femmes ont d'expérimenter le corps. Et d'expérimenter le corps, d'une part, dans le plaisir, et expérimenter le corps dans la douleur. C'est l'accouchement qui, pour un homme grec, est le modèle de toute douleur. Cette douleur qu'il ne connaît pas par définition est le modèle. Ils ont construit un système hyperpolitique dans lequel les Athéniens descendent de la terre qui est à la fois leur mère et leur patrie. Or, patrie, c'est une façon de dire qu'elle est la terre des pères, et donc la terre est à la fois mère et père, et ce qu'il y a de maternel dans la terre est contrebalancé par ce qu'il y a de paternel dans la patrie. Ainsi, je crois qu'ils court-circuitent la filiation par les femmes.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
There's a little secret where my money goes, beneath some used food and 10 pounds of clothes, wrapped in a dead president's wife. Scissors and rock, paper and knife. It's pink and it's soft, roses and rain. Black and it's good life, pleasure and pain. It's life. And there was a guy I used to know. He planted a seed that he couldn't grow. Chicken or egg, who could be bothered? Where was your head, son? See what your father. Don't go away, don't disappear. And don't get me wrong, 'cause I'm facing a brave nightfall attack of treacherous blood, a weak fits of will. The one that you say could be the one set to kill. Don't go astray, don't even try. Keep it away, 'cause you're
Julien de la Combe parle d'Athéna,
la déesse qui est née dans la tête de Zeus.
L'enfant, qui naît de cette union étrange avec la déesse Métis, est lui-même très étrange. C'est une fille, Athéna, mais cette fille a aussi des caractéristiques masculines très marquées. Athéna est femme, entièrement, mais c'est son génie. Elle peut accomplir indifféremment et avec éclat des activités qu'on dit féminines et d'autres qu'on dit masculines. Elle sait agir comme agissent les deux sexes, autant qu'elle veut. Issue d'une mère qui est une intelligence raisonneuse, Métis, et d'un père rusé et avisé, Zeus, puis accouchée par un dieu artisan, Héphaïstos, ce qui compte pour Athéna, ce n'est pas ce qu'on est par nature, mais c'est ce qu'on sait projeter et ce qu'on sait faire. Tout pour elle est affaire de savoir, d'intelligence, de technique, d'action. Athéna n'aura donc pas envie ou besoin de participer à la chaîne naturelle des générations en faisant des enfants. Ça ne l'intéresse pas. Elle est née dans l'artifice, la ruse, la technique, elle y restera. Sa fécondité est immense, elle la montre par ce qu'elle invente et fabrique. Elle n'a besoin de personne et elle restera résolument vierge. Ainsi est née Athéna aux yeux de lumière. Déesse puissante et lucide, son regard a le même éclat que celui de la chouette la nuit, son animal fétiche. Que va-t-elle faire dans la vie, cette Athéna? Elle va étonner, subjuguer, en brouillant les pistes. Elle sera résolument féminine, toujours, comme fille chérie de Zeus, mais elle aura toujours la liberté de décider, à tel moment ou à tel autre, d'agir comme le font les femmes ou comme le font les hommes, sans confusion, en allant chaque fois au bout de chaque rôle. Une scène de l'Iliade d'Homère montre particulièrement bien ce qu'est Athéna. Comment elle peut changer de rôle, féminin puis masculin, en un instant, sans aucune difficulté, et avec autant de succès dans chacun de ses rôles. Il s'agit d'un épisode de la guerre de Troie. Pendant toute la guerre de Troie, Athéna soutient les Grecs contre les Troyens. Or, au cours d'une très longue et très difficile bataille, elle voit que les Grecs perdent de l'énergie, qu'ils sont épuisés. Hector, le chef troyen, est en train de gagner. Athéna ne le supporte pas. Elle brûle d'aller aider les Grecs. Elle peut le faire, tant elle est bonne guerrière, experte dans tous les arts du combat et désastreuse pour ses ennemis. Elle est même la seule déesse à qui son père Zeus confie ce qu'on appelle son égide, qui est une arme terrifiante, une sorte de manteau, ou plutôt de cape sonore sur laquelle trône la tête monstrueuse de la Gorgone. Il suffit de l'agiter pour que les ennemis se mettent à fuir. Homère, le poète de l'Iliade, nous présente Athéna se préparant à descendre depuis l'Olympe pour voler au secours des Grecs sur le champ de bataille. On assiste alors à l'armement de la déesse guerrière. Cette scène est étonnante. Pour entrer dans son armure, Athéna quitte un vêtement qui est tout le contraire de la guerre. Un vêtement somptueux, coloré, moiré, scintillant, où sont brodés mille dessins. Une robe qu'Athéna a tissée elle-même, nous dit Homère. Comme les femmes grecques à la maison, Athéna sait tisser et broder des vêtements luxueux et souples. Elle les crée et les réalise elle-même. Elle quitte ses parures de luxe en un instant pour devenir une guerrière déterminée et efficace.
Cependant, Athéna, fille de Zeus qui tient l'égide, laissa couler sur le sol du palais paternel sa robe souple, robe chamarrée faite par elle à la fatigue de ses mains. Elle entra dans la tunique de Zeus, assembleur de nuages. Elle se cuirassa d'armes pour la guerre qui fait pleurer. Autour des épaules, elle jeta l'égide et ses franges, une terreur. De tous côtés, elle est couronnée d'épouvante. Là, il y a querelle, il y a force et la glaçante poursuite. Là surtout, il y a la tête gorgonéenne du monstre terrible, terreur et épouvante. Prodige de Zeus qui tient l'égide. Sur sa tête, elle posa, bordée de cimier, un casque à quatre pans en or, où s'attachaient les images des lourds guerriers de 100 villes. D'un pas, elle monta sur le char flamboyant et prit la lance lourde, immense, compacte, avec laquelle elle mate les rangs des héros contre qui s'irrite la fille d'un puissant père.
L'expédition d'Athéna contre Hector et les Troyens sera victorieuse. Aucune déesse ne saurait faire cela. Être une très grande couturière, puis d'un coup, se transformer en chef de guerre surarmé et redoutable. Imagine-t-on Elsa Schiaparelli, Agnès B., Sonia Riquiel ou Vivian Westwood prendre subitement le commandement d'un régiment de chars. Peut-être que Vivian Westwood aurait pu, elle, puisqu'un jour, debout sur un blindé, elle est allée interpeller un premier ministre britannique qui faisait des bêtises. L'un des plus grands exploits militaires d'Athéna est sa participation spectaculaire et décisive à la grande guerre féroce qui a opposé les dieux de l'Olympe, conduits par son père Zeus, et les géants, les gigantes. Guerre qu'on appelle d'habitude la gigantomachie. Machie vient de maché en grec, qui veut dire le combat. Ces géants, ces gigantes, étaient vraiment des pabots, des affreux, des brutes. Ils étaient très grands, avec des cheveux dans tous les sens, des barbes bouillonnantes. Leurs pieds étaient des serpents couverts d'écailles. Comme les humains, mais aussi comme Athéna, ils portaient des armures. Ils étaient nés de terre, Gaïa, et de ciel, Uranos, comme Cronos et ses frères et sœurs, ces dieux qu'on appelait les titans. Mais à la différence des titans, ce n'étaient pas des dieux, ils étaient mortels. Terre et ciel les avaient fait naître parce qu'ils étaient furieux que Zeus ait écrasé la génération des titans, leurs enfants directs, et les ait jetés au fond du monde, dans le gouffre horrible du Tartare. En faisant naître les géants, terre et ciel ont voulu créer des ennuis à Zeus. Les géants vont faire la guerre à Zeus, à ses enfants et à tous les dieux de l'Olympe. Leur guerre est une sorte de remake de la guerre plus ancienne de Zeus contre les Titans, guerre qui avait permis à Zeus d'établir son pouvoir. Après la guerre contre les Titans, Zeus, vainqueur, bien installé avec ses frères et sœurs sur l'Olympe, avait pu commencer à régner sur le monde et à peupler ce monde en faisant, avec ses différentes épouses, une flopée d'enfants. Des enfants divins, Athéna, Apollon, Artémis, Arès, Dionysos, les Muses, et d'autres humains, comme Héraclès. Les géants vont s'en prendre violemment à l'ordre créé par Zeus. Ils vont le mettre en danger, mais seront écrasés. La guerre va mettre en scène Zeus, et surtout deux de ses enfants, un enfant immortel, Athéna, et le mortel qu'était encore Héraclès. Il deviendra dieu plus tard. Malheureusement, nous n'avons pas de texte très ancien qui nous raconte cette guerre, cette gigantomachie. Il y a peut-être eu une épopée à l'époque d'Homère ou d'Hésiode qui en déroulait l'histoire, comme Hésiode nous raconte la guerre de Zeus contre les Titans, la titanomachie, on n'en sait rien. Les poètes, Homère et Hésiode, mentionnent les géants, mais sans plus. Plus tard, on trouve des allusions chez les écrivains comme Pindare, Sophocle, Euripide, mais peu de choses. Pour avoir des détails un peu précis, il faut attendre les poètes latins. Et surtout un recueil de mythes composé au 1er ou au 2e siècle après Jésus-Christ, ce livre qu'on appelle la Bibliothèque d'Apollodore. Ce texte d'érudit reprend des textes plus anciens. On ne sait pas vraiment lesquels. Cette absence de grands textes est bizarre. Car ce qui est sûr, c'est que ce mythe existait à haute époque. Il était ancien et il était très populaire. Trop populaire ? Trop monstrueux pour les poètes ? On en trouve de nombreuses illustrations dans des images peintes à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et surtout dans des grandes sculptures monumentales qui ornaient des temples très célèbres. Le temple de Zeus à Olympie, d'Apollon à Delphes, d'Athéna à Athènes, puis plus tard à Pergame, en Asie mineure. Tout le monde connaissait l'histoire des géants. Elle est très étrange. Elle montre que cette fois, dans ce conflit, les dieux ne pouvaient pas s'en tirer tout seuls contre leurs ennemis, sans l'aide des humains. Les géants, les adversaires des dieux, étaient des mortels, mais pour les vaincre, il fallait impérativement que les dieux acceptent de coopérer avec un humain. On dit parfois que c'est terre et ciel qui ont mis cette condition paradoxale à la victoire éventuelle de Zeus. Les géants ne pourraient être éliminés que si un humain, un mortel, combattait avec Zeus dans son camp. Ça ne pouvait que rabattre le caquet d'un Zeus qui se croyait tout-puissant. On dit aussi que la déesse Terre, passablement fourbe et retorse comme d'habitude, a fait pousser une herbe qui permettait aux géants de ne pas succomber aux coups que leur donnerait un mortel. Mais Zeus a eu connaissance de cette trouvaille. Il demande au soleil et à la lune de ne pas briller le temps qu'il trouve cette herbe, qu'il l'accueille et la confisque. Il y arrive. Les géants ne sont pas immunisés. La bataille peut commencer. Thank you.
Pierre Judet de la Combe parle d'Athéna.
La fille chérie de Zeus, féminine et guerrière.
La dualité de la déesse Athéna, à la fois guerrière et soucieuse de pacifier.
Henri Pena Ruiz, philosophe et écrivain.
Exprime quelque chose du rapport au monde, et peut-être des deux forces qui l'animent. L'une, de construction et de production. L'autre, de destruction. Ces deux grands symboles reproduisent cette ambivalence.
Zeus demande à un humain de l'aider dans son combat contre les géants. Il choisit son fils Héraclès, né d'une femme humaine. Héraclès était alors encore un mortel. C'est plus tard qu'il deviendra Dieu. Zeus associe son fils humain, Héraclès, à sa fille divine, Athéna. Les deux font merveille. Athéna intervient à la fois comme intelligence et comme force. La bataille a lieu sur la terre où sont nés les géants, au nord de la Grèce, en Thrace. C'est ce qui fait la force des géants, des gigantes. Ils sont souvent décrits comme enfants de la terre, gegenes, de vrais autochtones. Tant qu'ils touchent leur terre natale, tant qu'ils prennent appui sur son sol, ils sont invincibles. Même abattus, ils se redressent. Pour les vaincre, il faut les chasser de chez eux. Ainsi, Héraclès a du mal à oxyre le géant Alcyone, Alcyonos. Chaque fois qu'Héraclès le jette à terre, ce géant, fils de la déesse Terre, reprend des forces. Athéna, l'intelligente, lui conseille de le tirer hors du pays où ce géant était né. Héraclès peut alors le tuer. Athéna intervient aussi comme déesse musclée, et pas seulement intelligente. Elle se débarrasse du géant Encelade, Enceladus, qu'elle a mis en fuite en lui lançant dessus un grand morceau de terre, la Sicile tout entière, rien que ça. Le géant est écrasé, Héraclès l'achève. Puis Athéna abat le géant Pallas. Elle lui enlève sa peau, et en bonne artisane couturière, s'en fait un vêtement qui recouvre son corps. C'est pour cela, selon certaines traditions, qu'on l'appelle Pallas Athéna. Les autres dieux contribuent aussi au massacre, chacun à sa manière, selon ses habitudes. Mais chaque fois, Héraclès doit achever le travail. Apollon touche avec son arc un certain Éphialtès à l'œil gauche. Héraclès l'oxie en lui envoyant une flèche dans l'œil droit. Héphaïstos, le dieu forgeron, balance des blocs de fer rougi. Hécate se sert de torche. Les déesses du destin les moirent de massues de bronze. Hermès, toujours malin, se coiffe d'un casque qui rend invisible. Poséidon, qui sait fracasser les rochers avec son trident, lance sur le géant Polybotès la moitié de l'île de Kos. Même Dionysos s'y met, il frappe un géant avec son bâton sacré.
Et le dieu qui gronde, de son bâton si peu guerrier, couvert de lierre, abat un autre enfant de terre, lui, Bacchos, le délirant.
Héraclès finit la guerre en achevant de ses flèches tous les mourants, puisqu'il fallait un mortel pour tuer ces géants mortels.
Au géant, il enfonça dans les côtes ses flèches ailées. Puis cette belle victoire, il la dansa parmi les dieux.
C'est tout l'establishment divin de l'Olympe, l'administration du monde telle que Zeus a pu la constituer définitivement, qui est mobilisée pour la guerre. Mais face à des ennemis mortels qui évoquent tellement les folies, les démesures humaines, ces dieux bien établis ne sont sauvés que grâce à un homme, Héraclès. L'histoire de cette bataille a eu un succès énorme dans les cultes, les danses, dans les temples, dans les images peintes sur vase, les sculptures. Tous les 4 ans à Athènes, pour la grande fête de la ville en l'honneur de la déesse, les Panathénées, des jeunes filles tissaient pour Athéna un tissu extraordinaire, une tunique, un péplos, coloré, chamarré et très précieux. Sur ce tissu, les jeunes filles représentaient le combat contre les géants et les victoires d'Athéna. C'était le combat majeur de la déesse, sa grande victoire. Le tissu était déployé sur un mât fixé à un char qui avait la forme d'un bateau. Il était porté en un grand cortège depuis le quartier appelé le Céramique, en bas de la ville, jusqu'à un temple d'Athéna sur l'acropole, l'Erechtheion. De ce péplos, on drapait la statue d'Athéna qui était dans ce temple. Que les dieux de l'Olympe doivent être respectés, célébrés dans les cultes, dans les tissus, les peintures et les poèmes, à cause de ces violences horribles, à cause de ces conflits sans pitié, a pu en choquer plus d'un parmi les Grecs de l'Antiquité. des penseurs se sont insurgés contre ces récits violents et ces pratiques. On trouvait que ces férocités, ces démences, n'allaient pas bien du tout avec ce qu'on devait attendre d'une divinité. Les dieux, disaient ces penseurs sérieux et austères, devaient être parfaits, bons, toujours en paix, sinon rien ne les distinguait des humains. Ainsi, au VIe siècle avant Jésus-Christ, le poète-philosophe Xénophane s'en est vivement pris à toutes ces poésies de guerre divine, les titanos et gigantomachies et autres machies.
Ne raconte pas la guerre des titans, la guerre des géants ou des centaures. Ce sont des inventions des hommes d'autrefois. Ne raconte pas des querelles véhémentes. Il n'y a là rien d'utile. Pour les dieux, il faut toujours avoir une attention qui soit bonne.
Dans son dialogue appelé Euthyphron, Platon fait dialoguer Socrate et le devin Euthyphron. Socrate dit qu'il ne comprend pas qu'un homme aussi avisé et savant qu'Euthyphron puisse croire à tout cela.
Tu crois donc toi aussi qu'il y a réellement eu entre les dieux une guerre qui les a dressés les uns contre les autres? Qu'il y a eu des haines et des batailles terribles et plusieurs événements de ce genre qui sont racontés par les poètes et qui inspirent les représentations bariolées dont nos bons amis les peintres décorent nos objets sacrés, en particulier le vêtement, couvert de tels bariolages, que l'on mène en procession à l'Acropole à l'occasion des grandes Panathénées?
Ah là là, les philosophes ont du mal à comprendre les mythes. Les philosophes cherchent des vérités éternelles, générales, bien fermes, alors que les mythes sont changement, histoire. Peut-être que ces philosophes n'ont pas vu, ou ont fait semblant de ne pas voir, que cette histoire du combat des géants et des dieux parle en fait moins des dieux que des êtres humains. Pourquoi inventer cette guerre bizarre, qui n'oppose pas des dieux entre eux, mais des dieux et des monstres mortels, la victoire finale ne pouvant venir que d'un mortel? Normalement, les dieux sont beaucoup plus forts que les humains, ils peuvent les supprimer sans problème. Pourquoi terre et ciel ont-ils décidé de se venger de cette manière de la défaite de leurs enfants divins, les titans, sous les coups de Zeus et de sa génération? Il y a sans doute pas mal d'ironie dans le mythe de cette guerre. On peut imaginer que ciel et terre en colère se sont dit.
Ah, vous, Zeus et compagnie, vous faites les fiers. Vous avez estourbi, écrasé nos enfants, les titans. Vous avez pris le pouvoir. Eh bien, vous allez voir à qui vous aurez affaire maintenant. Vous n'aurez pas affaire à des dieux. Vos adversaires divins, vous les avez mis en prison dans le Tartare. Mais à des êtres mortels. Vous allez régner sur les humains. Vous allez devoir gérer leur monde. Eh bien, voyez ce que c'est, ces humains. Quels sauvages ils peuvent être, quels monstres sans foi ni loi, sans règles.
En effet, le prétexte de la guerre, c'est qu'un géant, un dénommé Porphyrion, a essayé de violer Héra, l'épouse légitime de Zeus. Mais il faut tout de suite ajouter que c'est Zeus qui lui a inspiré le désir de Héra. Zeus crée ainsi le prétexte d'une bonne guerre.
Ces géants sont pires que les titans. Vous verrez, vous les dieux de l'Olympe, que ces mortels, si différents de vous, vous n'avez pas vraiment prise sur eux. Il faudra que ce soit un humain qui en vienne à bout.
Que se disent encore terre et ciel? Cet humain est Héraclès, associé à Athéna. Ce couple humain-divin en dit long. Héraclès et Athéna sont tous les deux des forces civilisatrices. Ils combattent l'un et l'autre la sauvagerie. Héraclès passe son temps à tuer des monstres, à libérer la terre d'êtres informes et néfastes. Il permet ainsi à un ordre humain de s'établir. Pour y arriver, il est violent. Même chose pour Athéna. Elle est guerrière, mais pas comme son autre demi-frère, également enfant de Zeus, Arès, le dieu de la guerre, dieu féroce et cruel, avide de sang, qui se plaît aux massacres, aux querelles et se réjouit de la mort des hommes. Athéna combat, mais pour défendre ou consolider un ordre en accord avec ce que veut son père Zeus, la plupart du temps. Athéna combat en technicienne, avec intelligence, avec stratégie, éventuellement avec ruse et tromperie. Sa pensée, c'est atteindre son but, que ce soit à la guerre ou ailleurs, dans tous les domaines. Fille de la déesse intelligence Métis, Athéna invente, trouve des moyens, des issues et réalise des merveilles dans toutes ses activités, aussi bien à la guerre que dans ses travaux pacifiques. Les géants, ces brutes, ce sont les humains, avant que n'interviennent ces deux puissances civilisatrices, Héraclès et Athéna. Artisane, Athéna exerce souvent son habileté technique dans un domaine féminin. La fabrique de tissus compliqués et magnifiques, mais pas seulement. Elle connaît aussi des métiers d'hommes. Elle peut être charpentière quand elle fournit l'étrave du navire de Jason et des Argonautes, l'Argo. Quand elle donne à Ulysse l'idée et les moyens de construire le cheval de bois. On dit que c'est elle qui a appris aux artisans humains à fabriquer
des voitures de fête et des chars bardés de bronze multicolore.
De fait, Athéna peut travailler le métal. Par exemple, pour fabriquer de quoi brider un cheval, on l'appelle alors Athéna Hippios, Athéna des chevaux. C'est l'histoire de Pégase et de Bellérophon. Athéna a aidé le pauvre Bellérophon, un fils de Poséidon, à brider et à maîtriser le cheval Pégase. Ce cheval fabuleux, un cheval ailé, qui avait gardé en lui toute la sauvagerie qu'il tenait de sa naissance. Ce cheval avait pour père Poséidon, qui était le dieu de la mer, mais aussi des chevaux. Et il avait pour mère la gorgone Méduse. Poséidon pratiquait ce genre d'union bizarre avec des êtres douteux. Il a bien couché avec une Érinie pour engendrer un autre cheval mythique, Aréon, l'ultra-rapide. Pégase est né du sang qui a jailli du cou de la gorgone quand le héros Persée l'a tranché. Avec une telle ascendance, il n'était pas facile à dompter. Bellérophon, à qui son père Poséidon avait donné le cheval, n'y arrivait pas. Désespéré, Bellérophon va consulter le devin de son pays. Le devin lui dit d'aller se coucher le soir sur l'autel d'Athéna. Bellérophon fait comme il dit, il s'endort et a un rêve. Athéna apparaît au jeune homme. Elle tient dans ses mains un mors, M-O-R-S, et un frontail d'or pour chevaux. Le poète Pindare raconte l'histoire. Athéna nocturne s'adresse au jeune Bellérophon.
Tu dors, prince? Prends ce charme pour chevaux, montre-le à ton père. Poséidon, le grand dompteur, en lui sacrifiant un taureau lumineux.
Dans les ténèbres, la vierge déesse à l'égide sombre parut dire tout cela aux dormeurs.
Bellérophon se réveille, voit le mort et la têtière d'or déposée près de lui. Il court trouver son devin.
Il se leva vite, droit sur ses pieds. Le prodige était là. Il le prit et, heureux, alla trouver le devin du pays. Il montra au fils de Coïranos l'issue de toute l'histoire, comment sur l'autel de la déesse, il se coucha la nuit, suivant son oracle. Comment la fille de Zeus, le dieu à la lance de foudre, lui offrit l'or qui maîtrise les pensées. Le devin le pressa d'obéir au plus vite à la vision du sommeil.
Bellérophon passe le mort au cheval Pégase. Il le rend docile, bridé. Le jeune héros peut aller accomplir ses exploits fabuleux, mater les Amazones, la Chimère, les redoutables Solymes.
Alors le puissant Bellérophon s'élança, saisit le remède, le tendit sur la mâchoire du cheval ailé, docile. Tout de suite, couvert de bronze, il le monta et le fit danser la danse des armes. Avec Pégase, un jour, quittant les golfes déserts de l'azur glacé, il jeta ses flèches sur l'armée des femmes amazones, sur Chimère qui souffle le feu, sur les Solymes et les tua. Sa mort, je vais la taire. Pégase, les antiques écuries de Zeus sur l'Olympe, l'accueillirent.
On voit dans cette histoire comment Athéna et Poséidon se complètent. Poséidon, le vif, le vigoureux, le dieu qui ébranle la terre, qui secoue la mer, peut engendrer un cheval en couchant avec un monstre. Ce cheval aura sa force. Mais pour maîtriser le cheval, il faut l'art patient, la technique artisanale d'une Athéna qui trouvera le moyen de canaliser cette force sauvage. Athéna se fera forgeronne et façonnera l'or qui maîtrise les pensées de ce cheval impétueux.
Easy now, heavy is the head that wears a hollow crown. There must be something in the air, there's talk of revolution here, up above the clouds. Ready eyes, always be prepared to see through everybody's lies. Soon
Pierre Judet de la Combe parle d'Athéna.
La déesse couturière et artisane.
Déesse de la technique, Athéna se trouve en relation directe avec Héphaïstos, le dieu artisan, le Vulcain des Romains. Ce dieu qui, d'un coup de hache, a ouvert le crâne de Zeus pour qu'elle naisse au monde. Il arrive à ces deux divinités de collaborer. Par exemple, pour fabriquer la première femme humaine, Pandore, qui était un être artificiel, une poupée parlante. Mais Athéna et Héphaïstos représentent deux manières différentes de concevoir l'activité technique des artisans. Héphaïstos produit des merveilles, des automates, des bijoux, des trônes, des maisons dorées pour les dieux. Mais lui-même, il est affreux, il est difforme, il boite des deux jambes. C'est le contraste entre l'auteur et son œuvre. L'auteur, Héphaïstos, est laid, mais son œuvre est merveilleuse. Mais cet auteur artisan est en manque. Il n'est pas, il n'a pas pour lui la beauté de ce qu'il s'est créé. Il désire avoir cette beauté pour lui, en dehors de son art. Héphaïstos est souvent un amoureux, plein de désirs. Il veut posséder la grâce qu'il n'a pas. L'Odyssée d'Homère en fait l'époux de la sublime Aphrodite, la beauté divine incarnée. Aphrodite est par elle-même, sans artifice, la beauté de ce que les mains d'Héphaïstos savent produire. Il l'épouse, mais comme on peut s'y attendre, Héphaïstos est vite cocu. Athéna, c'est l'inverse. Elle est à la fois artisane, fabricante de beauté, et beauté elle-même magnifique. Elle est aussi belle que ce qu'elle sait produire. Parfaite, elle se suffit à elle-même. Elle n'a besoin de personne et reste vierge, à jamais. Mais ce qui devait arriver, arriva. Héphaïstos en a assez d'être cocufié par Aphrodite. Un jour, Athéna vient dans son atelier en collègue. Elle a besoin de son travail. Héphaïstos est pris de désir. Il se met à lui courir après. Commence alors l'histoire d'Athéna, l'Athénienne. Encore une drôle d'histoire passablement tordue, où Athéna va acquérir un très grand rôle politique. Héphaïstos, toujours brûlant de désir, poursuit Athéna longtemps jusqu'au pays d'Athènes, qui alors ne s'appelait pas Athènes, mais, nous dit une légende, Acte, le promontoire. Arrivé en ce lieu, Héphaïstos pense qu'il va enfin réaliser son désir. Mais Athéna résiste farouchement. Héphaïstos lutte, puis ne se retient plus. Sa semence le quitte et coule sur la jambe de la déesse. Furieuse, Athéna s'essuie avec un flocon de laine qu'elle jette à terre. Exit Héphaïstos. Mais ce n'est qu'un début. La semence d'Héphaïstos touche le sol et féconde alors la terre divine d'Athènes. Puis le temps passe et la terre accouche un enfant. Son nom évoque bien son origine peu régulière. Il s'appelle Erichthonios. La deuxième partie de son nom, Chthonios, rappelle l'un des mots grecs qui dit la terre, chthon, le sol. Quant au début du nom Eri, il pouvait être interprété comme une reprise du mot querelle, Eris, puisque cet enfant est né non pas de l'amour, mais d'une lutte entre Héphaïstos et Athéna. Ou bien, on pouvait aussi entendre dans Eri de Erichthonios le mot Erion, laine, flocon de laine. En tout cas, cela ne donne pas l'idée d'une conception pacifique et simple. La terre qui a fait naître l'enfant le confie à Athéna. Généreuse, Athéna l'accueille, elle l'élève, le protège. Erichthonios deviendra le premier roi d'Athènes. On dit que c'est lui qui a créé la première fête en l'honneur de celle qu'il a élevée, les Panathénées, en l'honneur d'Athéna. La ville a pris le nom de la déesse et s'est appelée Athènes. Avec un tel roi, né de la terre, les Athéniens étaient très fiers de pouvoir dire qu'ils étaient tous nés de leur propre sol, de leur terre, qu'ils étaient autochtones. C'est pour cela, disaient-ils, qu'ils étaient un peuple essentiellement libre. Ils ne dépendaient de personne d'autre. Ce mythe de l'autochtonie d'Athènes est vraiment baroque, surprenant, comme presque tous les mythes. La terre athénienne a été fondée par hasard, par un dieu libidineux, à l'issue d'une poursuite, d'une querelle, d'un refus et d'un acte manqué. Il y a mieux comme origine glorieuse. Encore une fois, les mythes grecs se refusent à la naïveté. Les Athéniens peuvent dire qu'ils sont nés de la terre autochtone, mais ils ne le sont pas de manière brute, directe, comme les géants, qui eux sont vraiment nés de la terre et qui n'ont pas été éduqués. Avec cet Erichthonios, on a plus l'histoire d'une adoption qu'une histoire de filiation directe. La terre est fécondée malgré elle, puis elle confie son enfant à la déesse vierge qui avait refusé d'être fécondée, Athéna. La Vierge Athéna, qui venait de loin, qui au départ n'avait rien à voir avec ce lieu, devient ainsi mère, par substitution, par accord, par entente avec la Terre, après avoir été victime d'une agression violente. Là où il y a eu querelle, lutte, abus, Athéna a su créer l'entente. Grâce à elle, la naissance du jeune roi Erichthonios est déjà une affaire de concorde politique. Les Athéniens peuvent être fiers d'une déesse, la leur, qui a su accueillir un enfant qu'elle ne voulait pas, et qui a su oublier une agression, une querelle déchirante et peu glorieuse. Athéna consacrera son pouvoir sur Athènes en faisant aux Athéniens un don vital. En frappant de sa lance le sol d'Athènes, elle fera naître un arbre généreux, lumineux, qui ne perd jamais ses feuilles. Un arbre qui donne aux hommes la substance essentielle, toujours pure, brillante et nourricière, qu'est son huile. Cet arbre est l'olivier. Grâce à Athéna, les Athéniens apprendront à le cultiver et en vivre. Athéna est donc à la fois couturière, charpentière, forgeronne, dresseuse de chevaux, guerrière, cultivatrice, souveraine politique. Elle est tout cela. Elle rassemble en elle un ensemble immense de compétences qu'aucun autre dieu et surtout qu'aucun humain, homme ou femme, ne pourra jamais posséder par lui-même. Elle est au-delà des distinctions qui font habituellement une société où les artistes, les guerriers, les cultivateurs sont spécialisés différents. Chez elle, il n'y a pas cette spécialisation. Elle passe d'un domaine à l'autre facilement, comme elle veut. C'est elle, par ses capacités techniques multiples, qui permet à ses compétences, à ses métiers différents et indispensables à la société de cohabiter, de prospérer, de manière qu'il y ait une vie commune. Si les Athéniens se sont donnés comme divinité protectrice, supérieure à eux tous, une femme, ce n'est pas par féminisme. Ils voulaient une divinité intouchable, toujours vierge, qui ne leur ressemble pas, mais une divinité qui pouvait à tout moment les guider dans toutes leurs actions, partant de guerre ou de paix. Les Athéniens montraient par là que la vie commune pour les humains n'est possible que si du haut de son acropole, une divinité familière mais inatteignable et surpasse tous et veille sur eux. Athéna, indissociablement tisserand des guerrières, montre ce qu'est la politique. Par sa connaissance des armes, elle protège la ville contre les ennemis de l'extérieur. Tisserande, elle sait associer des fils de couleurs différentes, comme sont différents entre eux tous les citoyens, et elle crée une harmonie. Tout est affaire d'habileté, de technique. Voilà, Athéna est désormais bien établie, bien solide dans son rôle, triomphante, vénérée, avec une ville qui porte son nom, avec ses temples, ses images, ses rites, ses mythes, sa beauté. Mais Athéna n'est-elle que cela. Elle est aussi la fille chérie de Zeus, le patron. Comme fille de Zeus, elle participe activement à l'histoire universelle des dieux et des hommes, bien au-delà d'Athènes. Elle est l'une des ouvrières essentielles de cette histoire. Comment se débrouille-t-elle dans ce très grand rôle? Est-elle toujours aussi triomphante que les images publiques d'Athéna voudraient le faire croire? Maîtrise-t-elle le temps, les événements, les surprises infinies que déchaînent les grandes aventures que sont les histoires de la ville de Troie, du retour des Grecs chez eux et notamment du retour d'Ulysse? Si vous le voulez, nous en parlerons la semaine prochaine. On découvrira les faiblesses humaines d'Athéna.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugien. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Cédric Châtelus et le mixage par Jean-Benoît Tétu. La semaine prochaine, nous parlerons à nouveau d'Athéna, tellement divine et trop humaine. Bonne journée sur France Inter.